Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente ou plus ou moins récente qui concernent directement et parfois indirectement la foi chrétienne. Et voici d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Nous présentons dans cette émission L'Esprit du Livre un premier ouvrage de Belinda Canone. Le titre est simple, S'émerveiller. Ce livre est paru aux éditions Stock au mois de janvier 2017. Belinda est romancière et essayiste. Elle a publié au moins 7 romans. Le dernier, Nu intérieur, aux éditions de l'Olivier, et plusieurs essais dont L'écriture du désir ou La tentation d'un terme très actuel, La tentation de Pénélope. Parfois, le silence règne. Nous sommes paisibles et concentrés. La lumière est belle et notre regard vigilant. Alors, l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif? Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent, c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement, ici et maintenant, dans le pur présent. Cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de joie. Le risque de l'enténèbrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus persister à évoquer l'émerveillement, car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l'existence. Ici est notre séjour, y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. Et voici un passage. C'est un chapitre intitulé « L'amoureuse concentration ». Je regarde la haie que je connais si bien et qui n'a rien de remarquable, aubépine, prunelier, ronce, fouillis, piquant, mais le soleil couchant l'éclaire. Et soudain, je m'émerveille car je la vois. Mon sentiment n'est pas lié à sa nature remarquable, surprenante, mais à ma capacité à la voir vraiment. C'est-à-dire à la voir pour elle-même, dans la force de son existence, dans sa présence. S'émerveiller, c'est d'abord saisir la présence des choses et des êtres. Les circonstances, cependant, ont leur importance. Le terme évoque la relativité sous toutes ses formes, ambiguïté, opacité, ambivalence, versatilité. Diderot, dans ses salons, note comment un simple mal de ventre peut perturber notre jugement esthétique. Les circonstances de la vie ordinaire sont de nature à contrarier notre capacité d'émerveillement, et c'est pourquoi la solitude souvent accroît les chances de l'éprouver. Faire taire les bruits et l'agitation du monde pour se rassembler en soi, se concentrer. La concentration dont je parle n'est pas un effort, contrairement à ce qu'indique une expression courante, faire l'effort de se concentrer, faisant de l'être un atanor dans lequel les parfums sont épurés et intensifiés, et les mouvements de plongée, manière de se remettre en son centre, d'être au plus près de soi.
Je vous présente à mon tour un livre dont la Bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition et dont le titre est « L'étranger ». Il fait partie de la petite collection qui s'appelle « Ce que dit la Bible sur » aux éditions Nouvelle Cité. Il s'agit donc d'une réflexion sur ce que dit la Bible sur l'étranger, donc à propos des problèmes de l'exil et de l'immigration, de toutes les épreuves que rencontrent les réfugiés, les déracinés de tout genre. Ce livre n'est pas tout à fait récent, puisqu'il date de décembre 2013, mais c'est une acquisition récente et utile parce que le sujet qu'il aborde est d'une actualité brûlante. L'auteur est Yves Saout, prêtre à Brest et bibliste, qui a également une longue expérience de missionnaire en Afrique et en Amérique latine. Dans ce livre, il est interrogé par Bénédicte Draillard, qui est journaliste et juriste, et surtout qui dirige cette collection, ce que dit la Bible sur... etc. Donc, les questions qui se posent dans ce livre forment tout un cheminement à travers les différents aspects du thème de l'étranger, en commençant par la manière dont la Bible présente la genèse des différents peuples et des nations. Car pour qu'il y ait étranger, il faut d'abord qu'il y ait appartenance et attachement à une patrie, à une terre. Et c'est à partir d'une identité nationale que vont se former les souffrances de l'exil et le sentiment de déracinement. On aborde ensuite les problèmes sous-jacents qui sont les conflits entre les nations. Car le fait est là, les peuples ne cohabitent pas en bonne harmonie. Et dès le début de la Bible, nous pouvons voir des guerres, des haines farouches, parfois entre peuples frères, et des invasions de tous côtés. Le peuple hébreu est le premier lui-même à subir des exils et des déportations, car sa position géographique en fait malheureusement une terre convoitée par tous les grands peuples environnants, que ce soit l'Égypte par en bas, la Syrie par en haut, etc. La première cause d'émigration est donc la fuite pour tout simplement rester en vie. Et l'apparition de réfugiés politiques, souvent mal reçus et exploités, là où ils s'installent. Mais il existe une deuxième cause à l'immigration, qui est elle aussi très souvent présente dans l'histoire biblique. Il s'agit de la famine, car régulièrement, des problèmes climatiques crée de terribles sécheresses. Mais il y a aussi des famines qui ne sont pas d'origine climatique, mais à cause d'invasions d'insectes. On a tous entendu parler d'invasions de sauterelles qui dévorent tout sur leur passage et qui ont laissé des traces dans la Bible. Les populations doivent alors migrer tout simplement en quête de nourriture. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles seront bien accueillies dans les pays voisins, et nous le savons bien encore aujourd'hui, où des réfugiés de tout genre rencontrent de l'hostilité. Le livre, ce que la Bible dit sur l'étranger, se penche ensuite sur les raisons du rejet de l'étranger et la peur qu'il suscite. C'est bien sûr la peur de l'inconnu, la peur des différences culturelles, mais aussi, soyons francs, la peur de devoir partager les richesses. Pourtant, dans cette région biblique, les lois de l'hospitalité sont bien présentes, hein, comme dans tout le Moyen-Orient. Mais malheureusement, les lois de l'hospitalité reposent sur l'idée de réciprocité. Alors, accueillir celui qui ne peut rien vous rendre, il faut avouer que c'est toujours un peu difficile. On trouve pourtant dans l'Ancien Testament de nombreux cas où les étrangers sont accueillis et font preuve d'une assimilation réussie. En général, tout simplement grâce à leur travail et à leur dévouement. Comme Moïse lui-même en est un exemple quand il se réfugie à Madian. Vous vous souvenez, après avoir tué Joseph l'Égyptien, Moïse fuit l'Égypte et se trouve refuge chez des ennemis d'Israël. Et il va finir par épouser la fille du chef de clan. Mais c'est aussi le cas pour Joseph en Égypte, vendu par ses frères, mais qui finit par devenir le bras droit du pharaon. Ou encore, peut-être moins bien connu, le cas pour Ruth, la Moabite, qui est donc la belle-fille de Noémie, qui, ayant perdu son mari et ses deux fils, est obligée de quitter là où elle était et pour retourner dans son lieu de naissance. Et cette étrangère veut absolument la suivre. Et elle s'intègre tellement bien qu'elle épouse Boaz, dont c'est bien connu, Ruth et Boaz, comme pilier de l'amour biblique. Et elle est tellement bien intégrée qu'elle entre aussi dans la généalogie de Jésus. Et c'est une arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Donc, les pays assimilent mieux ceux qui peuvent se montrer serviables ou aimants et qui sont une main-d'œuvre utile, pas seulement physiquement, mais aussi comme penseurs et comme savants, et en fait tous ceux qui peuvent apporter un sang neuf et ne se montrent pas dangereux pour le pays d'accueil. Nous pouvons nous souvenir, par exemple, que pendant l'exil à Babylone, le peuple hébreu a été bien intégré et a été utile et apprécié par les Babyloniens. Au point d'ailleurs que beaucoup d'Hébreux, au moment où l'exil s'est montré terminé, beaucoup de Juifs sont restés à Babylone et ont continué d'y vivre bien intégrés. Reste quand même que le grand problème dont parle la Bible, ce n'est pas tant le refus des étrangers que le refus de leur Dieu. Et de nombreux passages peuvent nous paraître terriblement choquants, voire cruels, et particulièrement envers les femmes étrangères, les éternelles séductrices qui font tomber Israël dans l'idolâtrie. Mais il faut garder à l'esprit la pédagogie divine, qui veut conduire progressivement toute l'humanité à la connaissance du Dieu unique. Et bien sûr, le petit livre dont je vous parle, dans ses derniers chapitres, va donc nous parler de Jésus dans son rapport avec les étrangers, Jésus qui les respectait, les enseignait et les soignait sans discrimination, amenant petit à petit à vivre ce à quoi nous sommes tous appelés, à cette notion d'unité dans la diversité qui est la marque du christianisme. Et en tout cas, nous essayons d'en approcher, bien sûr, mais il y a encore des progrès à faire dans ce domaine. C'est ce que nous dit tout ce livre, ce que dit la Bible sur l'étranger et qui peut nous aider à mieux percevoir ce que Dieu attend de nous pour avancer vers l'unité des peuples, dans le respect des différences et surtout le souci des besoins des étrangers qui vont continuer, bien entendu, à affluer avec les migrations non seulement politiques mais aussi écologiques dont on sait qu'elle commence déjà les migrations pour des causes climatiques. Vous pouvez vous procurer, bien sûr, ce livre du Père Saoud à la bibliothèque diocésaine à Chartres, rue Saint-Aimant. Voici maintenant le père Roger Willem qui vous présente un deuxième ouvrage.
Voici un deuxième ouvrage, « À la recherche de la vie intérieure ». C'est un ouvrage écrit par plusieurs personnes, paru chez Albin Michel au mois de novembre dernier. Qu'est-ce que la vie intérieure? En avons-nous une? Si oui, pouvons-nous la cultiver? N'est-elle pas à la fois la source de nos pensées, de nos sentiments et de nos intuitions, mais aussi de toute création et de toute spiritualité? Patrice Van Gersel nous guide à travers une enquête passionnante qui progresse au fil de ses dialogues avec 8 personnalités remarquables, dont le psychiatre Christophe André et le poète Christian Bobin. De l'intériorité sans bruit, que décrit Christophe André, jusqu'à cet enfant intérieur jouant à cache-cache que nous invite à retrouver Christian Bobin, un voyage inédit vers ce que chacun porte d'essentiel et d'unique. Vite, pour ces longues soirées d'hiver, mais de printemps qui approche, ouvrez ces livres, mettez-les sur votre table de nuit, elle pourrait transformer cette table en table de jour pour une belle journée nouvelle, pleine d'inattendus, de création et de silence.
Je vous présente maintenant un deuxième livre que vous pourrez également trouver à la bibliothèque diocésaine de Chartres. Il s'agit d'un livre du théologien jésuite Antonio Spadaro, dont le titre est « Le synode sur la famille, portes ouvertes », paru aux éditions Parole et Silence en février 2016. Il s'agit d'un petit livre d'une centaine de pages qui présente une excellente synthèse du synode qui a eu lieu donc l'année précédente et qui peut intéresser soit des lecteurs qui souhaitent s'informer d'une manière concise, mais sans superficialité, soit aussi des lecteurs qui ont suivi tous les travaux du synode, mais qui peuvent trouver dans ce livre une récapitulation claire ainsi qu'une analyse compétente. Je vous rappelle que le père Spadaro avait publié déjà un livre d'entretien avec le pape François en 2013, sous le titre « L'Église que j'espère ». Et donc il est un familier de la pensée du pape, dont on retrouve tout au long de ce livre d'abondantes et importantes citations. On peut se rendre compte, d'ailleurs, à quel point le pape François s'est investi dans ce synode sur la famille, par sa présence, ses conférences, et ses exhortations, et à quel point il a aussi voulu relier ce synode au jubilé de la miséricorde et impliquer tout le peuple de Dieu grâce à un questionnaire préparatoire qui avait été distribué partout et destiné à permettre une approche réaliste de la situation, de façon à donner une conscience des réalités concrètes des problèmes de la famille que connaissent les croyants. Le père Spadaro décrit bien sûr le synode, c'est-à-dire le foisonnement des débats, des publications et des interventions, nombreuses et sans en cacher les difficultés. Car il fallait que plus de 360 personnes puissent s'exprimer, se rencontrer pour discuter, voire se confronter, et parfois des confrontations sévère, mais dans le respect des diversités, sans jamais léser personne, tout en préservant l'unité de la foi et de l'Église. On imagine sans peine l'exploit d'organisation et de méthodologie de travail que cela a demandé. Et pourtant, le pape François a toujours insisté sur la nécessité absolue de la liberté d'expression. Il a demandé de garder une parole franche et sans langue de bois à laquelle on est habitué, car le but était de trouver un vrai consensus commun à la fin du synode et pas un simple compromis de façade. Ça le demandait à tous beaucoup de patience, dit le pape François, patience de l'écoute, patience du dialogue, car combien de difficultés pour faire l'unité alors que, je cite, « ce qui paraît normal pour un évêque d'un continent peut sembler tout à fait étrange, voire scandaleux pour un évêque d'un autre continent. » Et nous pouvons d'ailleurs, avec le père Spadaro, faire l'inventaire des 9 difficultés essentielles, je ne vous les citerai pas toutes, il les appelle des nœuds. Et ils sont soulignés également sans complaisance par le pape François, comme, j'en cite quand même un peu, par exemple, les crispations trop rigides sur la doctrine, qui sont, je cite, « une tentation de transformer le pain en pierre pour la jeter sur les pécheurs, les faibles et les malades », c'est-à-dire de transformer la doctrine en d'insupportables fardeaux. Donc cette parole assez dure du pape François a été dite plusieurs fois et redite dans l'ensemble du synode, le fait que la doctrine de base, c'est l'enseignement du Christ, c'est l'évangile lui-même. Et par conséquent, comme le dit encore le pape François, elle n'a rien à voir avec, je cite, ouvrons les guillemets, des cœurs fermés qui souvent même se cachent derrière les enseignements de l'Église ou derrière des bonnes intentions pour trôner sur la chair de Moïse et porter des jugements, parfois de façon hautaine et avec légèreté, sur des cas difficiles et des familles déchirées. Un autre nœud souvent dénoncé par le pape est la tentation de l'immobilité, le goût d'une fixité un peu rassurante, mais qui éloigne des réalités de la mission. L'Église ne peut pas être un musée, dit-il. Elle se doit d'être constamment en mouvement pour rester vivante et utile. Il faut tout le temps se renouveler, changer. Et le cœur du document final du synode dit d'ailleurs ceci, que je cite, tout en exprimant la doctrine de façon claire. Il convient d'éviter tout jugement qui ne tiendrait pas compte de la complexité des situations. On voit bien que les fruits de ce synode sont aujourd'hui d'inviter à l'écoute de la réalité des familles telles qu'elles sont dans notre monde moderne, de travailler à les soutenir pour éventuellement redonner sens à leur vocation chrétienne avec l'horizon premier de la miséricorde, et donc aussi d'accepter de dépasser certaines formes actuelles d'exclusion trop systématique dans l'Église. Car l'Église, dit pape François, est là pour soigner, c'est un hôpital de campagne, pour prendre soin, pour accompagner vers le salut, et non pas pour condamner aveuglément. Voilà, une bonne manière de résumer tout ce livre est de retenir les 4 mots principaux qui doivent orienter l'avenir de ce synode, comme nous dit le père Spadaro. Les 4 mots sont discernement, accompagnement, intégration et réconciliation. Mais au-delà de ça, le mieux est encore de lire tout ce petit livre d'Antonio Spadaro, « Le synode sur la famille », que vous trouverez à la bibliothèque diocésaine rue Saint-Aimant à Chartres. Et je vous dis dès à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.